Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Gittin, page 23, Daf Kaf Gimel. Bonne écoute et bon limoud.
Il s'agit d'un cas où une personne consciente est présente au moment de l'écriture du guet et leur dit de l'écrire au nom du divorce de la femme, même si de même ils ne sont pas conscients. Mais quand une personne consciente leur dit d'écrire l'acte de divorce au nom du divorce de la femme, nous dirons que ce guet est valable et nous estimons donc qu'ils l'ont écrit au nom du divorce de celle-ci. En d'autres termes, selon cette réponse de Ravuna, notre Mishnah suit l'opinion de Rabbi Lazar qui dit que ce sont les témoins devant lesquels l'acte de divorce est transmis que celui-ci devient valable. Par conséquent donc, quand la Torah nous parle de l'écriture du guet, il s'agit de l'écriture du texte et non pas de la signature des témoins. Donc c'est l'écriture du texte de l'acte de divorce qui doit être écrit au nom du divorce de la femme. Est-ce que la Mishnah conclut que le document ne devient valable que par ceux qui signent dessus? En fait, ce que la Mishnah veut nous dire, c'est que le document ne devient valable que par les témoins devant lesquels ce document est transmis, parce qu'en général, ce sont eux les signataires du document. En d'autres termes, ce que la Mishnah a voulu nous enseigner, simplement que ça ne nous dérange pas que ce soit le bénéficiaire du document qu'il écrit pour lui-même, parce que finalement, ce sont les témoins devant lesquels ce document sera transmis qui le rendront valable. À Marley, Rav Nachman a posé la question suivante à Ravuna, et la Meata, si c'est comme ça, Obed Kochavim, si c'est un goy qui a écrit l'acte de divorce, vi Israël Omed al-Gabav, et c'est un juif qui est présent au moment de l'écriture pour lui dire qu'il l'écrive au nom du divorce de la femme, Hachinami de Kacher, est-ce que c'est vrai que ce guet sera Kacher, selon ton interprétation, Vichit et Mahachinami, et si tu veux dire qu'effectivement, quand un goy écrit un acte de divorce, quand un Israël est présent pour lui dire qu'il l'écrive au nom du divorce de la femme, que ce guet est valable. Vehatania, voici qu'il a été enseigné dans une braïta, Ovet Kochavim, Pasoul. Si un goy écrit un acte de divorce, celui-ci sera Pasoul. Nous comprenons, même si un Israël est présent au moment de l'écriture de celui-ci. L'Agma répond, Ovet Kochavim, le daté de Nafshea Avad. Le goy écrit le guet pour lui-même, c'est-à-dire comme il entend, sans se soucier de ce qu'on lui dit. C'est pourquoi, même si un Israël est présent au moment de l'écriture du guet, celui-ci sera pasoul. Hadam Rav Nachman, par la suite, Rav Nachman a dit, Lav miltahi de amre, ce n'est pas vrai ce que j'ai dit plus haut, que le guet sera pasoul s'il a été écrit par un goy. Dimi de kapasile, leovet kochavim ninyanava, puisque l'auteur de la Mishnah, plus loin, dit que le goy ne peut pas être employé comme étant émissaire pour amener un guet. Miklal de l'inyan ktiva kacher, puisque dans la Mishnah précédente, donc dans l'autre Mishnah, il n'a pas précisé que le guet ne peut pas être écrit par un goy. Apparemment donc, nous pouvons déduire que le guet sera kasher même s'il est écrit par un goy. Et cela parce que nous interpréterons la Mishnah différemment. Nous dirons que l'auteur de notre Mishnah est Rabbi Meir, qui dit que ce sont les témoins qui signent sur le guet qui le rendent valable. Selon lui, nous n'avons pas besoin que le guet soit écrit au nom du divorce de la femme, mais simplement qu'il soit signé au nom du divorce de la femme. Et c'est cela d'ailleurs que la Mishnah conclut, que le guet ne devient valable que par la signature des témoins. En d'autres termes, c'est la signature du guet qui importe et qui doit être faite au nom du divorce de la femme. La Gemara demande, « Ve'atania ovet kochavim pasoul » voici qu'il a été enseigné dans une braïta que le guet écrit par un goy est pasoul. La Gemara répond, « Hahi Rabbi Lazar hi » l'auteur de cette braïta est Rabbi Lazar d'Amar et de Messira Karte, qui dit que ce sont les témoins devant lesquels le document est transmis qui le rend valable, et selon lui, Ubainal Kitiva Lishma, on a besoin que l'écriture du guet soit au nom du divorce de la femme, comme nous l'avons expliqué. Il est évident que le goy écrit l'acte de divorce comme il entend, sans se soucier de ce qu'on lui dit. Par conséquent, même si un Israël est présent au moment de l'écriture du guet, celui-ci sera pasoul. La Gemara continue. Amar Rav Nachman, Omer Haya Rabbi Meir. Rabbi Meir avait l'habitude de dire, en d'autres termes, c'est son opinion, « Afilo metzao be'ashpa » même s'il trouve un acte de divorce dans la poubelle avec son nom et le nom de sa femme, « Khatmo » et il l'a fait signer par des témoins « Venatnola » et l'a transmis à sa femme, « Kacher » cet acte de divorce sera « Kacher » et cela parce qu'il a été signé au nom du divorce de la femme. Et Tive, Rava, le Rav Nachman, Rava a opposé Rav Nachman, Vekatavla, voici que le pasouk dit concernant les lois du divorce, et il écrira pour la femme. Nous apprenons de là que le guet doit être écrit au nom du divorce de la femme. Maïlav ktivata guet, n'est-ce pas qu'il s'agit ici de l'écriture du guet, que donc celui-ci doit être écrit au nom du divorce de la femme. Ma répond, lo, ce n'est pas ça que nous apprenons de ce pasouk. Khatimata edim, nous apprenons de là que les témoins doivent signer au nom du divorce de la femme. Et tive Rava, opposé Rav Nachman, la Mishnah, au début, plus loin, kol get shenichtav shelo lishum isha pasoul, tout acte de divorce qui n'a pas été écrit au nom du divorce d'une femme, celui-ci sera pasoul. Nous voyons donc de là que le get doit être écrit au nom du divorce d'une femme. La Gemara répond, Emma, c'est ainsi qu'il faut comprendre la Mishnah, shenichtav shelo lishum isha pasoul. Si le get n'a pas été signé au nom du divorce de la femme, celui-ci sera pasoul. Et tive, on a opposé à Rav Nachman, la braïta qui suit, Kshehu Kotvo, quand il écrit une partie du guet au nom du divorce de la femme, Kilu Kotvo Lishma, c'est comme s'il avait écrit entièrement au nom du divorce de celle-ci. My love, n'est-ce pas que c'est ainsi qu'il faut interpréter la braïta? Kshehu Kotvo le Toref, quand il écrit, il inscrit les données essentielles du guet, c'est-à-dire le nom du mari et de la femme, Lishma, au nom du divorce de la femme, Kilu Kotvo le Tofes Lishma, c'est comme s'il avait écrit tout le texte du guet au nom du divorce de la femme. Nous voyons donc de cette braïta que le guet doit être écrit au nom du divorce de la femme. Il m'a répondu, lo, ce n'est pas ainsi qu'il faut interpréter la braïta, mais comme suit, kshehu chotmo lishma, quand on fait signer des témoins sur le guet au nom du divorce de la femme, kilu kotvo lishma, c'est comme s'il avait été écrit entièrement au nom du divorce de la femme. Veibaitema, et si tu trouves à redire sur cette réponse, je t'en dirai une autre. Hane matnitin, c'est braïtot ou mishnayot que nous avons opposé à l'avis de Rav Nachman, mané, rabbi Lazari, nous dirons que l'auteur de ces mishnayot seront et Rabbi Elazar d'Amar et de Messira Karte, qui dit que sont les témoins devant lesquels l'acte de divorce est transmis, qui le rendent valable. Selon lui, comme nous l'avons expliqué, effectivement, le guet doit être écrit au nom du divorce de la femme. Nous avons fini ici le shiur de Gittin d'Afkavbet. Nous commençons le shiur de Gittin d'Afkav Gimel, au milieu de la page, à 8 lignes, au-dessus de la Mishnah. Nous avons vu jusqu'à présent la Mishnah qui nous dit que le guet était kasher même s'il avait été écrit par un sourd muet, un fou ou un mineur. Alors la Gemara s'est demandé là-dessus, comment se fait-il que ce guet est kasher alors qu'il a été écrit par des personnes inconscientes qui ne peuvent pas l'écrire au nom du divorce de la femme? La Gemara a proposé dessus deux réponses. L'une est la réponse de Rav Nachman, qui dit que l'auteur de la Mishnah est Rabbi Meir, qui dit que ce sont les témoins qui signent sur l'acte de divorce qui le rendent valable. Selon lui, c'est la signature qui importe et qui doit être faite au nom du divorce de la femme. Par conséquent, si le texte du guet a été écrit par des personnes inconscientes, celui-ci sera kasher. Rav Huna a donné une autre réponse, que l'auteur de la Mishnah est Rabbi Elazar, qui dit que ce sont les témoins devant lesquels l'acte de divorce est transmis qui le rendent valable. Par conséquent, selon lui, effectivement, il faut que le guet soit écrit au nom du divorce de la femme, mais s'il s'agit d'un cas où une personne consciente est présente au moment de l'écriture de ce guet, pour leur dire de l'écrire au nom du divorce de la femme. Et cela sert même pour des personnes inconscientes. Rav Yehuda Amar Shmuel propose une troisième réponse. Vehu sheshiyer mekom atoref, le guet écrit par un sourd-muet, un fou ou un mineur sera kasher à condition qu'il laisse blanc ou vide l'endroit où sera inscrit les données essentielles du guet, c'est-à-dire le nom du mari et de la femme et la date. Rabbi Elazar est l'auteur de la Mishnah et Rabbi Elazar. En d'autres termes, même si, comme nous l'avons expliqué, l'avis de Rabbi Elazar est que le guet doit être écrit au nom du divorce de la femme, mais ce qui importe, c'est que ce soit le nom du mari et de la femme et la date de ce guet qui soit écrit au nom du divorce de la femme. Rabbi Zrika Amar Rabbi Yochanan Ena Torah. Rabbi Zrika dit au nom de Rabbi Yochanan que cette réponse dite par Rabbi Yehuda au nom de Shmuel n'est pas vraie. La Gemara demande Maï Ena Torah. Que veut dire Rabbi Zrika au nom de Rabbi Yochanan que cette réponse n'est pas vraie? La Gemara répond Amar Rabbi Abba Kan Hodiacha Shen Koach Lishma. Ici dans la Mishnah nous apprenons qu'il n'y a pas d'importance que le guet soit écrit au nom du divorce de la femme, Verabi Meiri, et en fait l'auteur de notre Mishnah est Rabbi Meir d'Amar et de Khatima Karte, qui dit que ce sont les témoins qui signent sur le document qui le rendent valable. Selon l'avis de Rabbi Meir, donc, c'est la signature des témoins qui importe, et c'est la signature qui doit être faite au nom du divorce de la femme, et non pas l'écriture du guet. La Gemara demande, Veha Amar Rabba Bar Bar Hanan Amar Rabbi Yochanan, voici que Rabba Bar Bar Hanan dit au nom de Rabbi Yochanan dans la Mishnah précédente concernant la loi qui dit que le guet est pasoul s'il est écrit sur un support attaché à la terre. La Mishnah avait dit que s'il l'avait écrit et puis l'a détaché et l'a fait signer par des témoins, celui-ci sera kasher. Là-dessus, Rabba Bar Bar Hanan dit au nom de Rabbi Yochanan que la Mishnah veut dire que si le texte du guet a été écrit, mais on a laissé blanc l'endroit où sera inscrit les données essentielles du guet, c'est-à-dire le nom du mari et de la femme et la date, et par la suite il a été détaché et on a rempli les noms du mari et de la femme et la date, alors qu'il était détaché, le guet est caché. Donc il a interprété que la Mishnah précédente, Rabbi Lazar, suivait l'opinion de Rabbi Lazar. Donc pourquoi ici, il interprète la Mishnah comme allant selon l'opinion de Rabbi Meir? La Gemara répond, Amoraïninhu valiba de Rabbi Yochanan. C'est une discussion entre les Amoraïm concernant l'opinion de Rabbi Yochanan. Effectivement, Rabbi Yochanan pense que Rabbi Yochanan interprète les deux Mishnayot comme suivant l'opinion de Rabbi Lazar, alors que selon l'avis de Rabbi Zrika, Rabbi Yochanan interprète les deux Mishnayot comme suivant l'opinion de Rabbi Meir. Nouvelle Mishnah. Hakol ksherim lavi et taget. N'importe qui peut être nommé émissaire pour amener un acte de divorce. Chutz mecheresh shoteh vekatan, à part le sourd muet, le fou et le mineur. Ceux-ci sont inconscients, ne peuvent pas être nommés émissaires. Vesuma, et aussi, sauf l'aveugle, la Gemara expliquera. Veovet kochavim, et aussi, sauf le goy. En effet, celui-ci n'est pas concerné par les lois de divorce telles qu'elles sont prescrites par la Torah. Par conséquent, donc, il ne peut pas y prendre part. Kibel hakatan. Si le mineur a reçu un acte de divorce en tant qu'émissaire veikdil et puis il a atteint la majorité, ou bien cheresh venit pakeach, ou bien si un sourd muet a reçu un acte de divorce en tant qu'émissaire et puis il a été guéri, ou bien suma venit pateach, ou bien si un aveugle a reçu un acte de divorce en tant qu'émissaire et puis il est devenu voyant, Choté venishtapé, ou bien si un fou a reçu un acte de divorce en tant qu'émissaire, et puis il est redevenu normal. Obed kochavim venit gayer, ou bien si un goy a reçu en tant qu'émissaire un acte de divorce, et puis il s'est converti, pasoul, ce guet est pasoul. En d'autres termes, ils ne peuvent pas être émissaires, bien que maintenant, quand le mineur a atteint la majorité, ou bien le sourd muet s'est guéri, etc., ils peuvent être nommé émissaire, mais ils ne peuvent pas emmener un acte de divorce en s'appuyant sur le fait qu'ils ont été nommés en tant que mineurs ou sourd-muets, donc pendant une situation où ils ne pouvaient pas servir d'émissaire. Aval pikeach venit haresh vechazar venit pakeach, mais si au moment où l'acte de divorce a été transmis, il était en bonne santé, puis il est devenu sourd-muet, et puis à nouveau, au moment de la transmission du guet, il a été guéri, ou bien patoar venistame vechazar venit patear, une personne voyante au moment où il a été nommé émissaire, et puis il est devenu aveugle, et puis à nouveau il est devenu voyant, ou bien shafui venishtate vechazar venishtape, une personne normale à qui on a transmis un acte de divorce en tant qu'émissaire, puis il est devenu fou, et puis à nouveau il est devenu normal au moment de la transmission du guet, kasher. Celui-ci sera kasher, puisqu'au moment où il a été nommé émissaire, il était normal et il pouvait accomplir sa mission. Zéaklal, ceci est la règle générale. Kol shetrilato vesofo bedat, tout émissaire qui est conscient au moment où il est nommé émissaire, donc au moment où il reçoit l'acte de divorce et au moment où il le transmet à la femme, kasher, il est considéré comme un bon émissaire et le guet sera kasher. La Gemara demande, Bishlama Chereshote Vekatan, on comprend bien pourquoi le sourd muet, le fou et le mineur ne peuvent pas être nommés émissaires de la Bene Deaninhu, parce qu'ils ne sont pas, ils sont inconscients. Obed Kochavim Nami, on comprend bien aussi pourquoi le goy ne peut pas être nommé émissaire pour amener un acte de divorce de la Bareterahu, parce qu'il n'est pas concerné par les lois de divorce telles qu'elles telles qu'elles sont prescrites par la Torah, il ne peut donc pas y prendre part. Et la Souma, mais l'aveugle, Amaylo, pourquoi ne peut-il pas être nommé émissaire? L'Agma répond, Amar Rav Sheshet, les filles chez Enoïde Amiminotlo, parce qu'il ne sait pas reconnaître de quelle personne il a reçu l'acte de divorce, ou le Minotno, il ne peut pas aussi savoir à qui il l'a transmis. En d'autres termes, il se peut qu'il l'ait reçu d'une personne qui n'est pas le mari, et qu'il le transmette à une femme qui n'est pas la femme, donc la destinataire de cet acte de divorce. Matkif la Rav Yosef. Rav Yosef lui a objecté, Hiyarsuma Mutar Beishto, comment se fait-il qu'un aveugle puisse s'unir avec sa femme si tu dis qu'un aveugle ne peut pas reconnaître les gens? Il risque donc de s'unir avec une autre personne que sa femme. Et en plus, Hiyar Bin Adam Mutar Beishotem Balayla, comment est-ce que les gens ont le droit de s'unir avec leur femme la nuit alors qu'ils ne peuvent ne pas la reconnaître? Et la Betiviutena de Kala, seulement tu seras obligé de dire que la nuit où un aveugle peut reconnaître une personne au son de sa voix. Hachanami Betiviutena de Kala, là aussi, on pourra dire que cet émissaire aveugle peut reconnaître les gens au son de leur voix. Il peut très bien savoir de qui il s'agit, qui lui transmet l'acte de divorce et à qui il le transmet. Et là, c'est pourquoi Amar Rav Yosef, Rav Yosef donne la raison qui suit. Hacha bechutz laaretz askinan. S'il s'agit d'un cas d'un acte de divorce transmis à l'étranger, debaei lememar befana nichtav ou befana nichtam, où l'émissaire doit déclarer que le guet a été écrit et signé devant lui. Velo matzi lememar, et il ne peut pas le dire parce qu'il est aveugle. Il ne peut pas donc déclarer que le guet a été écrit et signé devant lui. Amar le Abaye. Abaye lui a posé la question suivante. Et la Meata, si c'est comme ça, patour venistame. Un voyant qui est devenu aveugle, même s'il n'est pas devenu voyant par la suite, de Matzi Amar, qui lui peut faire cette déclaration, puisqu'au moment où le guet a été écrit, il était voyant, Hachinami de Kacher, effectivement, ce sera un bon émissaire, même s'il n'est pas voyant au moment de la transmission du guet. Veha Katan, et voici qu'il a été enseigné dans notre Mishnah, Patuach Venistame Vechazar Menit Pateach Kacher. Une personne voyante au moment où le guet lui a été transmis, puis il est devenu aveugle, et puis il est devenu à nouveau voyant au moment de la transmission du guet, celui-ci sera Kacher. Nous pouvons donc déduire de la Mishnah, Chazar Venit Pateachin, c'est que s'il est devenu voyant à nouveau au moment de la transmission du guet, qu'il sera considéré comme un bon émissaire. Lo Chazar Venit Pateach, lo, mais s'il n'est pas devenu voyant au moment de la transmission du guet, il ne pourra pas servir d'émissaire. Alors que selon l'avis de Rav Yosef, tel qu'il a interprété la Mishnah, une fois que l'émissaire était voyant au moment de l'écriture du guet, et par conséquent donc il peut faire cette déclaration, il devrait considérer comme étant un bon émissaire, même s'il devient aveugle par la suite. L'Agma répond, Lo, ce n'est pas une preuve, mais en fait, Huadin de'af al-gav de lo chazar venit pateach, en fait l'alakha sera la même, même s'il n'est pas devenu voyant à nouveau. Mais puisque la Mishnah a enseigné aussi le cas d'une personne normale qui est devenue folle et puis elle est devenue à nouveau normale. Là-bas, il est vrai que Tama de Chazar Venishtape, ce n'est que parce qu'il est devenu normal par la suite qu'il pourra servir d'émissaire. Halo Chazar Venishtape lo. Mais s'il n'est pas devenu normal à nouveau au moment de la transmission du guet, il ne pourra pas être émissaire. C'est pourquoi la Mishnah a enseigné le cas précédent de la même manière, donc d'un cas d'un voyant qui est devenu aveugle et qui est devenu voyant par la suite. En d'autres termes, puisque la Mishnah a voulu citer tous les cas où, pendant une période, l'émissaire est devenu inapte, et quand même, il a une possibilité de servir d'émissaire, on a inclus aussi le cas donc de la personne voyante devenue aveugle, et on l'a enseigné de la même manière que les autres cas. Mais toujours pourrais-je te dire que même s'il n'est pas venu voyant par la suite, il sera apte en tant qu'émissaire. Amar Ravashi, Ravashi dit Dekanami Dekatane. On peut aussi déduire cela de la fin de la Mishnah où il est enseigné Zéaklal, ceci est la règle générale. Kol Shetrilato Vesofo Bedat Kacher, tout émissaire qui est conscient au moment où il reçoit le guet en tant qu'émissaire et au moment où il le transmet à la femme, il est apte à servir d'émissaire. Velo katane. Par contre, la Mishnah ne nous dit pas kol shetrilato vesofo bekashrut kasher. Tout émissaire qui est apte au début, c'est-à-dire quand il reçoit l'acte de divorce en tant qu'émissaire et à la fin quand il le transmet à la femme, à ce moment-là, c'est un bon émissaire. Nous voyons bien que la Mishnah insiste sur le fait que l'émissaire doit être conscient au moment où il reçoit l'acte de divorce et au moment où il le transmet. Mais concernant les autres problèmes que peuvent se présenter chez l'émissaire, la Mishnah ne précise pas qu'il doit être apte soit au début, soit à la fin. Nous pouvons donc déduire de là que si l'émissaire présente un autre problème, par exemple s'il est aveugle, au moment où il transmet l'acte de divorce à la femme, il sera aussi un bon émissaire. Shmamina, la Gemara conclut effectivement, c'est une bonne preuve. Baoumine, Merabi Ami. On a posé la question suivante à Rabi Ami. Eved, Maou, Sheyase, Shliach, le Kabel Get, Isha, Miyad Baala. Est-ce qu'un esclave peut être nommé pour être émissaire de réception d'un acte de divorce? Donc il sera nommé par la femme pour recevoir l'acte de divorce de la main du mari de celle-ci. La question se pose, est-ce que nous dirons que l'esclave, puisqu'il est concerné par certaines mitzvot, il sera donc considéré comme juif et il pourra donc être nommé émissaire pour recevoir l'acte de divorce pour le compte de la femme? Ou bien est-ce que nous dirons que l'esclave n'est pas concerné par les lois du divorce, par conséquent, il ne peut pas y prendre part? Amar lehu, Rabbi Ami leur a répondu, mi de kapasile le oved kochavim, puisque dans la Mishnah nous avons vu que le goy ne peut pas servir d'émissaire pour amener un acte de divorce pour le mari.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page de Daf Kaf Gimel Amud Bet. Miklal Deved Kasher. On pourra déduire de là que l'esclave pourra être nommé émissaire, soit pour emmener l'acte de divorce, donc étant nommé émissaire par le mari, soit pour recevoir l'acte de divorce s'il est nommé en tant qu'émissaire par la femme. Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, En Ha'eved Na'ase Shliach Lekabel Get Le'isha Miyad Baala. Un esclave ne peut pas être nommé comme émissaire de réception d'un acte de divorce pour le compte de la femme de la main de son mari. Les filles chez Eno, Betorat, Gitin, Vekidushim, parce qu'il n'est pas concerné par les lois de mariage et de divorce. Et comme le précise le Tosfot, la raison pour laquelle la Mishnah ne parle que du Goy, c'est parce que par la suite la Mishnah veut parler de celui du Goy qui a été nommé émissaire puis il s'est converti. La Mishnah nous enseigne qu'il n'est pas saoul puisqu'il a reçu, l'acte de divorce alors qu'il ne pouvait pas servir d'émissaire. Et le chidouche est plus grand, parce que même s'il avait l'intention de se convertir, il ne pourra pas quand même servir d'émissaire, ce qui n'est pas le cas chez l'esclave, puisque ce n'est pas dans ses mains de se faire affranchir. Matkifla, Rabbi Lazar a objecté sur ce qu'a dit Ravasi au nom de Rabbi Yochanan, Tamad Bemilta Delete. Nous voyons donc que la raison pour laquelle l'esclave ne peut pas être nommé émissaire, ce n'est parce qu'il n'est pas concerné par les lois de divorce et de mariage. Par conséquent, il ne peut pas y prendre part. Habemilta deite kasher. On peut donc déduire de là que pour une mitzvah dont l'esclave est concerné, il pourrait être nommé comme émissaire. Veha oved kochavim veha kuti. Voici que concernant le goy ou bien le kuti, deitnehu betorat truma de nafshayu, qui sont concernés par les lois de truma quand il s'agit de choses qui ont de production dans leur champ. Detnan. À propos de cela, nous avons vu une Mishnah dans Tumot, Perek Gimel. Ha'oved kochavim ve'akuti shetarmu mishelahem. Un goy ou un kuti qui ont prélevé de la Truma sur des fruits qui ont été produits par leur champ. Trumatan Truma. Leur Truma est considérée comme une bonne Truma. Il sera donc interdit pour un Israël de la consommer et ce n'est que le Kohen qui pourra le consommer. L'auteur de la Mishnah pense ici que le goy ayant acquis un terrain dans les territoires d'Eret Israël, sera concerné par la loi de la Trouma. Par conséquent, quelqu'un qui achète de ses fruits devra prélever de la Trouma. C'est pour cela donc que si le goy prélève de la trouma à partir de ses fruits seront effectivement considérés comme étant trouma. En tout cas, donc, dans cette Mishnah, nous voyons que le goy est concerné par les lois de trouma. Et quand même, Vetnan, il a été enseigné dans une Mishnah, dans Maseret Trumot Perek Alef, Oved Kochavim Shetaram Shel Israël, un goy qui aurait prélevé de la trouma à partir de fruits qui auraient poussé chez un Israël, à Filobirshut, même s'il l'a fait avec la permission du propriétaire de ces fruits, qui est Israël, en Trumato Trouma, sa trouma n'est pas bonne. Alors la question se pose, c'est que puisque ce goy est concerné par la loi de trouma, il pourrait être nommé comme émissaire pour prélever la trouma. Maïtama, quelle est la raison pour laquelle la Mishnah nous enseigne que le goy ne peut pas prélever la trouma pour le compte de quelqu'un d'autre? Lav mishum dirtiv gam atem, n'est-ce pas que c'est parce que la Torah dit concernant la loi du prélèvement de la trouma, et vous prélèverez vous aussi. Le terme de gam est en plus. Alors, nous apprenons de là, ma atem Israël, af shluchachem Israël, de la même manière que vous, vous êtes Israël, et vous êtes donc obligé de prélever la trouma, l'émissaire que vous nommerez devra être aussi Israël pour qu'il puisse prélever la trouma. De là, nous voyons donc que ce n'est pas parce qu'il est concerné par une mitzvah qu'il peut servir d'émissaire, mais impérativement, il doit être Israël. L'esclave, lui aussi, n'est pas considéré comme étant Israël. Donc même s'il est concerné par une mitzvah, il ne devrait pas pouvoir servir d'émissaire pour celle-ci. La Gemara répond, Amre de Berabi Anai, lo. Les Chachamim du Beit HaMidrash de Rabbi Anai ont dit que ce n'est pas ainsi qu'il faut interpréter ce pasouk, mais de la manière suivante. Ma atem benébrit, de la même manière que vous qui prélevez la trouma, vous êtes liés par une alliance à Akadosh Baruch Hu, parce que vous avez accepté sur vous l'accomplissement des mitzvot et vous êtes circoncis. Af shluchachem benébrit, l'émissaire que vous nommerez pour le prélèvement de la trouma devra aussi être lié par cette même alliance. Le goy, lui, n'est pas lié par cette alliance. Il ne pourra donc pas servir d'émissaire pour prélever la trouma. Par contre, l'esclave qui est lié par cette alliance, puisqu'impérativement, il a été circoncis et il a accepté l'accomplissement de certaines mitzvot, il pourra servir d'émissaire pour une mitzvah par laquelle il est concerné. Amar Rabbi Chiya Baraba Amar Rabbi Yochanan En ha'eved naaseh shaliach lekabel get isha miyad ba'ala. Un esclave ne peut pas être nommé émissaire pour recevoir un acte de divorce pour le compte de la femme des mains de son mari, le fils Shaino Betorat Gitin Bekidushin, parce qu'il n'est pas concerné par les lois de divorce et de mariage. C'est pour cela donc qu'il ne peut pas y prendre part. Va falpi shishaninu, et bien que nous avons enseigné dans Maseret Mourad Afkafe, Hare at Shifra Uvladar Ben Chorin, si un maître dit à son esclave que toi tu restes esclave, mais que ton enfant soit affranchi. Im haïta ubara, si elle était enceinte, zartalo, elle a acquis pour lui, en d'autres termes, cet enfant sera affranchi dès sa naissance. La Gemara demande, mai im haïta ubara zartalo, qu'est-ce que Rabbi Yochanan a voulu dire quand il dit, et si elle était enceinte, elle a acquis pour lui qu'il soit donc affranchi dès sa naissance. Ça n'a aucun rapport avec ce que nous avons vu précédemment, concernant le fait qu'un esclave ne peut pas être nommé émissaire pour recevoir un acte de divorce pour le compte de la femme. La Gemara répond, « Kiata Rav Shmuel Bar Yehuda Amar. » Quand Rav Shmuel Bar Yehuda est venu d'Eretz Israël, il a interprété la chose de la manière suivante. « Rabbi Yochanan Tarte Amar. » Rabbi Yochanan a voulu nous enseigner deux choses. Premièrement donc, un esclave ne peut pas être nommé émissaire pour recevoir un acte de divorce pour le compte d'une femme. Deuxièmement, Nirim dvarim sheha eved mekabel get le chavero miad rabo shel chavero. Il semble qu'un esclave peut recevoir un titre d'affranchissement pour le compte de son collègue, c'est-à-dire d'un autre esclave, des mains du maître de celui-ci, s'il s'agit d'une personne qui n'est pas son maître à lui. Aval lo miad rabo shelo, mais s'il s'agit de son maître à lui, il ne pourra pas recevoir un titre d'affranchissement pour que son collègue soit affranchi. Et cela, parce que quand il le reçoit des mains d'un maître qui n'est pas le sien, finalement, ce titre d'affranchissement a quitté le domaine de cette personne pour arriver dans le domaine de quelqu'un d'autre, il peut donc l'acquérir pour le compte de son collègue. Par contre, s'il s'agit de son propre maître, nous dirons que ce titre d'affranchissement n'a pas quitté le domaine de son maître. Finalement, donc, il n'a pas le pouvoir de faire un acte d'acquisition pour le compte de son collègue. Vim la chachar Adam Lomar, et si une personne te soufflera à l'oreille en te disant Zuha la chachnuya, voici qu'il a été enseigné clairement dans une Mishnah, celle que nous avons citée plus haut, un maître qui dirait à son esclave que tu restes esclave, mais que ton fils, que ton enfant soit affranchi. La Mishnah dit là-dessus, Imaita Ubara Zartalo, si elle était enceinte, elle l'a acquis pour lui. En d'autres termes, cet enfant sera affranchi dès sa naissance. Et Morlo répond lui, Shnekdoleador Perchu et Adavar. Deux des maîtres éminents de leur génération ont expliqué la chose. Il s'agit de Rabbi Zera Verab Shmuel Bar Yitzhak. Chadamar Hamani Rebi, l'un des deux a dit, l'auteur de cette Mishnah est Rebi Dehamar, qui a dit, Hameshachrer Chatzi Avdo Kana, celui qui a franchi la moitié de son esclave, celui-ci s'est acquéri, c'est-à-dire, il est considéré comme étant affranchi à moitié. Et cela, bien qu'il ait reçu le titre d'affranchissement des mains de son propre maître, mais nous disons qu'il reçoit le pouvoir en ses mains, donc pour pouvoir acquérir quelque chose des mains de son maître, en même temps qu'il reçoit le titre d'affranchissement. Et cela parce qu'il s'agit de sa propre personne. Vechadamar, et l'autre a ajouté là-dessus, en se posant la question suivante, Maitama de Rebi Beha, quelle est la raison de Rebi dans notre cas où cette mère peut acquérir le titre d'affranchissement pour le compte de son fœtus, alors que finalement il ne s'agit pas de la moitié de son corps? L'agma répond, il a répondu, donc Kasavar Rebi pense, Ubar Yerechimohu, un fœtus est considéré comme faisant partie intégrale de sa mère. Venase et nous considérons donc ce cas comme si le maître avait donné à son esclave l'un de ses membres. En d'autres termes, de la même manière qu'un esclave peut acquérir la moitié de son corps et donc d'être affranchi à moitié des mains de son maître, il peut aussi acquérir donc une partie de son corps, même s'il ne s'agit pas de la moitié de celle-ci. Nous dirons dans tous les cas où le maître lui fait cadeau d'une partie de sa personne, qu'en même temps qu'il reçoit l'acte de divorce, il reçoit le pouvoir de l'acquérir, voire le ran. Par conséquent donc, cet enfant faisant partie intégrale de sa mère avant sa naissance, sa mère peut acquérir pour lui le titre d'affranchissement et il sera donc considéré comme étant affranchi dès sa naissance. Nouvelle Mishnah. Af hanashim she'enan nemanot lomar met ba'ala, même les femmes dont le témoignage desquels n'est pas accepté pour dire que le mari d'une femme est mort, pour qu'elle puisse se remarier, ne'emanot le'aviet gita. On leur fera confiance quand elles amènent l'acte de divorce de cette même femme. Il s'agit de femmes qui s'haïssent mutuellement, par exemple, chamota, la belle-mère qui haït sa belle-fille, ou bat chamota, ou la fille de la belle-mère, donc la belle-sœur, qui haït sa belle-sœur. Vetsarata est sa rivale, Veyevimta, ou bien c'est la femme du frère de son mari, donc sa belle-sœur aussi qui haït sa belle-sœur, ou Badbaala, ou bien la fille de son mari d'un autre lit. Toutes celles-ci sont considérées comme haïssant la femme. Par conséquent, quand l'une d'elles vient témoigner comme quoi son mari est mort, on ne permettra pas à cette femme de se remarier. On soupçonne en effet ces femmes de mentir délibérément pour causer un préjudice à cette femme, donc qu'elle se remarie et que finalement le mari de cette dernière revienne. Par conséquent, donc, elle serait interdite à son premier mari. Mais dans le cas d'un acte de divorce, on pourra leur faire confiance et on ne craindra pas que celui-ci ait été falsifié. Alors la Mishnah demande « Ma ben get lemita ?» Quelle différence y a-t-il entre l'acte de divorce et le témoignage de la mort du mari? La Mishnah répond, Shaktav Mochiar, parce que finalement, l'écriture, le document, prouve que celle-ci a raison. En d'autres termes, comme nous l'avons expliqué, nous ne craignons pas que l'acte de divorce soit falsifié. Haisha Atzma Mevia et Gita, Une femme peut amener son propre acte de divorce, ou bilvad shehi tzricha lomar befana nirtav ou befana nirtam. Seulement, elle devra déclarer comme quoi cet acte de divorce a été écrit et signé devant elle. La Gemara expliquera. Alors, la Gemara reprend le premier passage de la Mishnah, qui dit que les cinq femmes qui haïssent la femme peuvent amener l'acte de divorce. On leur fera confiance, on ne craindra pas que celui-ci ait été falsifié. La Gemara demande à Tanya que Shemshed Nemanot Lomar Medbala, de la même manière que ces cinq femmes ne sont pas crues quand elles disent que le mari de celle-ci est mort, Karen Nemanot Lavi Gita. On ne leur fait pas confiance aussi quand elles amènent son acte de divorce, on craint que celui-ci a été falsifié. La Gemara répond Amar Rav Yosef, Lakashia, il n'y a pas de contradiction. Kan Baaretz, dans notre Mishnah, il s'agit d'un acte de divorce qui a été amené en Eret Israël et d'Eret Israël, Kan Bechutz Laaretz, dans la Braïta, il s'agit d'un acte de divorce qui a été amené de l'étranger. La Gemara précise, Baaretz de la Vadibura Didar Kasrimchinan, concernant l'acte de divorce amené par ces femmes en Eret Israël. Finalement, donc, on n'a pas besoin de leur témoignage, parce que comme nous l'avons enseigné au début de la Maseret, que l'émissaire qui amène un acte de divorce en Eret Israël, dans Eret Israël, n'a pas besoin de faire cette déclaration. Or, puisqu'on n'a pas besoin de déclaration concernant cet acte de divorce, Mehemna, on pourra leur faire confiance parce qu'on ne craint pas que l'acte de divorce a été falsifié. Bechutz laaretz, par contre, quand il s'agit d'un acte de divorce emmené de l'étranger, d'Adibura Adida Kasamchinan, on doit finalement faire confiance à la parole de cette femme, de ces femmes, puisqu'elles doivent faire cette déclaration, comme quoi cet acte de divorce a été écrit et signé devant eux. L'Omehemna, on ne pourra pas faire confiance à leur témoignage, à leur déclaration. On craint qu'en effet, elles mentent délibérément pour causer du tort à cette femme. C'est-à-dire, comme le précise le Maharam Shif, en Eretz Israël, nous acceptons l'acte de divorce tel quel, tant qu'il n'y a pas de réclamation par le mari, nous n'avons pas à craindre que celui-ci ait été falsifié. En cas de réclamation du mari, on ne s'appuie pas non plus sur la déclaration de ces femmes, de ces émissaires qui ont amené l'acte de divorce, puisque finalement, cette déclaration n'est pas nécessaire. On ira donc chercher des témoins pour authentifier cet acte de divorce. On ne s'appuie donc pas du tout sur ces femmes. C'est pourquoi donc elles pourront être nommées émissaires. Par conséquent, quand il s'agit d'un acte de divorce emmené de l'étranger, la déclaration de ces femmes va nous servir en cas de réclamation du mari. Et comme nous l'avons expliqué au début de la Maseret, la réclamation du mari ne sera pas acceptée. Si cette déclaration était fausse, il y a lieu de craindre que par la suite viennent des témoins pour prouver que ce document a été falsifié. Et par conséquent, donc, cette femme qui s'est remariée entre-temps sera interdite à son mari. C'est pourquoi, donc, nous ne ferons pas confiance à la déclaration de ces femmes et le guet sera pas soul. Amar le Abaye. Abaye, elle a demandé à Adraba. Au contraire, Ipra Mistabra. Il est plus logique de dire le contraire. Baaretz, quand il s'agit d'un acte de divorce emmené en Eretz Israël, des I Atebal Maharer Mashgichinan Be, que pour le cas où le mari viendrait réclamer comme quoi cet acte de divorce a été falsifié, on accepte sa réclamation et on devra authentifier le guet. Des Ikal Memar le Kilkula Kamichavna. Il y a lieu donc de craindre qu'elle amène délibérément un acte de divorce falsifié pour lui causer du tort si elle s'est remariée entre-temps en s'appuyant sur cet acte de divorce. Par conséquent, l'Omehemna, on ne devrait pas faire confiance à ces femmes. En d'autres termes, quand elles amènent l'acte de divorce en Eretz Israël, cette femme ne pourrait pas se remarier tant que ce document n'a pas été authentifié. Et c'est donc de ce cas que parle la Braïta. Bechutz laaretz, par contre, dans le cas d'un acte de divorce amené de l'étranger, des iate baal me'arer lo mashgichinan be, ou à la suite de la déclaration de l'émissaire, dans le cas où le mari vient réclamer comme quoi cet acte de divorce a été falsifié, on n'accepte pas ses réclamations. Et cela pour la raison que nous avons expliquée au début du premier pérec, c'est que l'émissaire qui doit faire cette déclaration doit le faire devant un tribunal. Il prend donc sa déclaration au sérieux, il ne mentira pas délibérément. Mais Hemna, on devrait faire confiance même à la déclaration de l'une de ces cinq femmes. Et cela parce que si on l'accepte, finalement, le mari ne pourra pas venir réclamer comme quoi l'acte de divorce sera falsifié, parce que, comme nous l'avons dit, nous n'acceptons pas de réclamation. Elle n'aura donc aucun moyen de causer du tort à cette femme. Ce qu'Abaye pense, c'est qu'il n'y a pas lieu de craindre que des témoins viennent par la suite pour témoigner que cet acte de divorce a été falsifié. C'est une crainte trop lointaine. Et c'est cela donc que nous enseigne la Mishnah, qu'on fera confiance à ces cinq femmes si elles amènent un acte de divorce, à condition qu'elles fassent cette déclaration. C'est cela aussi que la Mishnah veut nous dire, que le document prouve qu'elles ont raison, parce qu'en effet, c'est parce qu'elles ont un document entre leurs mains, qu'on ne craint pas que celui-ci ait été falsifié. La Gemara continue. Tania kevate de Abaye. Il a été enseigné une braïta comme l'opinion de Abaye. Rabbi Shimon ben Elazar Omer Meshum Rabbi Akiva. Isha nemenet la vigita. On pourra faire confiance à une femme qui amène son acte de divorce, même si elle doit faire une déclaration comme quoi celui-ci a été écrit et signé devant elle. Mikal vachomer. Et cela, on l'apprend d'un raisonnement a fortiori. Uma nashim shamru chachamim en nemanot lomar met baala. Si déjà concernant les femmes, à propos desquelles les chachamim ont dit qu'on ne les croit pas quand elles disent que le mari de cette femme est mort, parce qu'on les craint de mentir délibérément, nemanot la vigita. On leur fait confiance quand elles amènent l'acte de divorce de celle-ci. Hish en nemanet lomar met baala. La femme elle-même, à laquelle on fait confiance quand elle déclare que son mari est mort, on lui permettra de se remarier. Enodin shene menet la vigita. N'est-il pas évident qu'on lui fera confiance quand elle amène son acte de divorce et qu'elle fait cette déclaration?
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.